On va parler d'accessibilité et on a avec nous Jean-Philippe Mingal.
Bonjour.
Donc, qui est un spécialiste des questions d'accessibilité et plus particulièrement des questions liées au handicap visuel.
Oui, puisque donc, je suis moi-même non-voyant, donc du coup je m'intéresse depuis un certain nombre d'années aux solutions d'accessibilité. J'ai démarré GNU Linux en 2004. Donc je m'y suis intéressé sur la partie braille, puisque je suis lecteur du braille. Et puis à partir de 2008, à partir du moment où en fait j'ai découvert qu'il était possible d'utiliser GNU Linux avec une synthèse vocale, j'ai estimé que le logiciel libre pouvait offrir une réelle alternative aux logiciels privateurs qui existent et qui posent d'un problème important sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Et du coup, j'ai décidé de m'impliquer dans les sphères libristes et c'est en continue augmentation depuis maintenant 3 ans.
D'accord. Alors on va commencer très simplement, pas nécessairement, mais en tout cas basiquement par qu'est-ce que c'est que l'accessibilité ?
Oui, alors l'accessibilité, en fait, c'est une notion qui implique la possibilité pour toute personne, quel que soit son handicap, c'est-à-dire le handicap peut être visuel donc comme le mien, mais également moteur, également cognitif ou auditif. Même d'ailleurs parmi tous ces handicaps, il y a des choses très complexes, hein, comme par exemple des gens qui n'ont pas de doigts, des gens qui n'ont pas de membres inférieurs, des gens qui sont paraplégiques, etc. Et ben tous ces gens-là doivent avoir la possibilité d'accéder à une information, que ce soit celle du système informatique de base, ou celle d'Internet, ou celle d'un logiciel. Et donc c'est ça que nous appelons l'accessibilité.
Alors pour le coup, ça recouvre des réalités extrêmement différentes. Est-ce qu'on n'a pas un objet trop complexe qui fait que c'est un peu impossible de couvrir tous les besoins ?
C'est en fait impossible, en effet, de couvrir tous les besoins. C'est-à-dire que il n'est pas possible à un logiciel ou à un site internet de chercher à être accessible à tous ses visiteurs. En tout cas, de prendre des mesures pour répondre à la problématique posée par certains handicaps. Pourquoi ? Parce qu'aucun handicap ne se ressemble. Si je prends l'exemple du visuel que je connais le mieux et de la malvoyance, c'est-à-dire des gens qui peuvent lire mais qui ont besoin de conditions de contraste ou de conditions de taille de caractère ou de police, tout ça, en fait, c'est concrètement, c'est extrêmement complexe. Pas un seul handicapé visuel a le même handicap et a les mêmes besoins. Donc effectivement, ce serait illusoire de faire ça. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une espèce d'infrastructure, c'est-à-dire de penser à des principes de base, des normes de base, pour que les outils qui, eux, sont développés pour les handicapés, c'est-à-dire par exemple des lecteurs d'écran ou des loupes ou des choses comme ça, ils soient capables d'aider les personnes. Donc en fait, il ne faut pas chercher à être accessible en tant que tel, mais à développer des outils, une infrastructure qui permettra aux outils spécialisés de, eux, fonctionner correctement. Et de toute façon, il faut partir du principe que, notamment sur des pages web, quand on développe des systèmes de loupes, etc., vous serez de toute façon moins performant la plupart du temps que ce que ne le sont les logiciels de revue d'écran qui peuvent exister. Donc, simplement, contentez-vous de faire une page qui soit avec des conditions de contraste, des choses comme ça, des possibilités d'adaptation de la présentation, mais après, c'est le lecteur d'écran qui fera son travail ou le logiciel d'accessibilité.
Alors, il y a des effets positifs. Manu va pouvoir nous en parler parce que professionnellement, hein, tu travailles sur des sites web, des choses comme ça, et tu viens juste de finir un site accessible. Et ça a révolutionné ta vision du problème.
Tout à fait. J'ai bossé pour une administration française et il se trouve qu'ils avaient un site magnifique, hein, superbe, qui leur a coûté un bras en flash. Très bien. Sauf que le flash, je ne sais pas si toi, tu en as des opinions. Moi, je déteste. Je sais pas si est-ce que tu arrives à le percevoir déjà le flash ?
Moi, je vais en rester à une notion très objective et très expéditive, c'est inaccessible.
Ouais, bon, c'était bien la conclusion qu'on en avait tirée. Hein. À un moment donné, on avait considéré que c'était peut-être un peu joli, on pouvait faire des trucs qui bougeaient, mais bon, non. Et donc, ils ont fait appel à moi pour recoder tout ça sous forme d'un site web HTML qui était accessible avec des normes. L'État pousse pas mal là-dessus, il y a eu des lois qui sont passées. Donc très bien. Et donc, j'ai mis les mains là-dedans. Et ce que je constate une fois que j'ai fini le travail, c'est que, un, mon travail a été relativement plus simple que ce que les mecs ont fait en Flash. Parce que certes, c'est bling bling, mais au final, c'est inutilisable dans plein de cas, et puis même, c'est moins efficace. Et mon site, que j'ai fait en HTML de manière brutale, tout simplement, qui est très joli, eh bien, je sais que mon site, il va encore fonctionner dans 10 ans, alors que leur site Flash, dans 6 mois, il va peut-être se casser la gueule, il sera immaintenable, il ne pourra pas évoluer. Et je constate tout simplement, je suis plus efficace à faire un site simple et pérenne.
Je crois que dans le même sens, on peut. Une règle de base assez facile, hein, c'est de se dire que de toute façon, si son site est inaccessible, ça pose des problèmes de référencement. Puisqu'à partir du moment où les robots comme Google, etc., sont pas capables de le référencer, et Flash en est typiquement un exemple, bah, c'est qu'il est inaccessible, quoi. C'est qu'il sera inaccessible à une grande partie des visiteurs, en fait.
Oui, donc on peut facilement faire une croix sur Flash.
Ah oui, enfin, voilà. En termes d'accessibilité, c'est évident. C'est-à-dire que même les solutions propriétaires, enfin, privatrices qui sont très. Disons-le, très performante. Enfin, c'est des solutions extrêmement performantes. Elles ne s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit on est avec un lecteur d'écran sous GNU Linux et là, bah, la page est carrément blanche. Soit on se retrouve avec un lecteur d'écran sous un système privateur et là, on va se retrouver avec des. Il va essayer de trouver des boutons, il va essayer de trouver des choses, mais en réalité, c'est pas du tout satisfaisant. Il va pas vraiment s'y retrouver. Il va voir des choses, mais il va pas trop comprendre de quoi il s'agit.
Ok, donc tu es membre du groupe Accessibilité de l'April.
Tout à fait, donc c'est un groupe en fait qui a pour but de mettre en relation en fait les gens, de mettre en relation les développeurs d'une part de logiciels pour les aider à rendre leur logiciel accessible, en tout cas à minima, les développeurs donc également d'outils d'accessibilité et puis les utilisateurs pour qu'on puisse avoir un dialogue et une espèce de synergie qui se crée, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de ce groupe. Et évidemment, on essaie de le faire à l'échelle de tous les handicaps possibles et imaginables, même si c'est évidemment un peu difficile, mais on essaie de le faire.
Par rapport à l'articulation entre logiciel privateur et libre, donc tu nous as expliqué que pour toi, le logiciel libre, c'était un vrai choix. Est-ce que c'est systématique chez tous les gens qui travaillent dans l'accessibilité ou est-ce qu'il y a un pragmatisme en se disant on a des problèmes concrets à régler et on prend ce qui marche le mieux ?
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Mon parcours à moi est déjà un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, j'utilisais un logiciel privateur jusqu'en 2004. Et en 2004, il a fallu que je le renouvelle pour des raisons... qu'on ne va pas rentrer dedans, mais c'est des raisons institutionnelles. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose parce que je n'ai pas envie de le financer, je n'ai pas les moyens et je n'ai pas envie de demander les subventions, étant donné ce que ça implique en termes de dossiers, de temps et d'énergie. Et donc j'ai entendu à ce moment-là parler de quelque chose qui s'appelait Linux, et je me suis dit, bon bah écoute, pourquoi pas, c'est gratuit, ça fonctionne, enfin apparemment, donc on va tester. Et donc j'ai testé pendant 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que donc non seulement ça fonctionnait, non seulement j'ai pu aller de plus en plus loin avec les interfaces graphiques, etc. Et j'ai pu me rendre compte que c'était du logiciel libre, et là j'ai commencé à comprendre la philosophie du logiciel libre. Mais alors simplement, la chose c'est que, il a fallu pour en arriver là, et en particulier pour construire mon expertise dans l'accessibilité, que je travaille énormément, que je sois passionné en fait, hein, que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Et ça, c'est pas le cas de la plupart des handicapés qui n'utilisent l'ordinateur qu'en tant qu'assistance, que technologie d'assistance, et qui n'ont pas du tout envie de se confronter à des problèmes de fonctionnement, etc. Et donc, clairement aujourd'hui, le logiciel libre n'est pas du tout, mais pas du tout le premier choix. Dans le meilleur des cas, c'est juste parce qu'on le connaît pas, et dans le pire des cas, c'est parce qu'on estime que ça marche pas. Donc bon, après c'est voilà.
C'est pas encourageant.
Il faut comprendre qu'on est qu'au début, quoi. C'est-à-dire que ça fait que 2 ans que tout ça existe. Bon, alors d'abord, il y a aussi une tendance, une espèce d'inertie, hein, qui existe dans la sphère des handicapés. Ça, moi, je suis le premier à le dire, et haut et fort, je m'en cache pas. Il y a une inertie qui fait qu'on change difficilement ses habitudes et avant de changer de quelque chose, on veut tester, on veut voir si ça marche, ce qui peut d'ailleurs se comprendre du point de vue des personnes. Et il faut comprendre que c'est très récent. C'est-à-dire que c'est des choses qui marchent depuis 2008-2009. Et puis bon, après, il n'y a pas de raison que ce qui se passe chez les voyants ne se passe pas chez les handicapés. Hein. Les voyants utilisent les logiciels libres à peu près à hauteur de 2-3%. Ben pourquoi les handicapés feraient mieux, hein. On fait pareil, on est dans le même problème, mais dans une sphère plus petite.
Ah, tout à fait, tout à fait. Tu parlais de problèmes qu'il y avait avec les logiciels privateurs. Ça ne peut pas être que le prix. Qu'est-ce que tu avais constaté? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui?
Bah écoutez, le logiciel privateur, il peut avoir un vrai problème de pérennité. Moi, je vais prendre l'exemple de la revue d'écran et des règles de son fonctionnement légal. Hein. Les règles du fonctionnement légal de cette application sont les suivantes. Vous avez droit quand vous... on va commencer à l'achat. L'achat coûte 1 300 €. Bon. Pour 1 300 €, vous avez droit à une clé qui vous permet d'accéder à Windows familial. Bien. Pour 2 300 €, vous avez droit d'accéder à Windows Pro. Quelle est la différence? Aucune. Hein, donc c'est pas qu'il y ait un apport de qualité, c'est juste que bah, tant pis pour vous, vous avez eu une Pro, donc c'est plus cher. Ensuite, une fois que vous avez cette clé, elle vous donne droit à 3 mises à jour. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ça va beaucoup plus vite les mises à jour. Donc évidemment, on est vite obsolète, quoi. Je veux dire, très rapidement on est obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand Firefox se met à jour et que ou que Internet Explorer se met à jour, au bout d'un moment, l'application est plus capable d'être très optimale pour lire ce genre de programme. Et le troisième point, c'est que étant donné que c'est une application contrôlée par une société en particulier, je vais vous prendre un exemple très très simple. En Finlande, par exemple, ils avaient et ils ont toujours développé une interface, enfin une table braille, c'est-à-dire en fait quelque chose qui fait une association entre d'un côté les caractères que vous allez voir à l'écran et de l'autre la correspondance en signe braille. Et donc ils avaient fait une table braille en fait, donc de correspondance entre leur pour leur langue, avec leur alphabet, avec leur spécificité. Bon, je parle pas finlandais, j'en sais rien, mais voilà. Et ils avaient demandé à la société productrice de la revue d'écran, ils leur avaient demandé d'intégrer cette table de manière à ce que les aveugles finlandais puissent, ou c'est islandais, pardon, islandais, puissent accéder dans leur langue, avec leur alphabet, à la chose. Et la société n'a pas voulu le faire, ou n'a pas d'ailleurs dit non, mais elle n'a juste pas répondu, et elle ne l'a pas fait parce que c'est pas du tout pour elle une priorité économique. Et puis un tout dernier point, quand on peut connecter un ordinateur à un afficheur braille pour lire le contenu de l'écran en braille, c'est-à-dire que le lecteur d'écran va récupérer l'information dans l'ordinateur, il va l'analyser, et il va nous expliquer ce qu'elle est, il va nous la décrire sur l'afficheur braille ou sur une synthèse vocale. Donc on peut connecter un afficheur braille, et ce qui se passe quand on connecte l'afficheur braille, en fait, c'est qu'il faut un pilote. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit capable de communiquer avec l'appareil. Et le résultat, c'est que avec un logiciel propriétaire, eh bien, il faut savoir que le logiciel a décidé unilatéralement de faire payer aujourd'hui les pilotes qui permettent à l'application de fonctionner avec les appareils. Ce qui fait que les appareils, comme les constructeurs d'appareils doivent payer la société, les appareils sont plus chers forcément. Et puis surtout, ça prouve à quel point tout ça est très, très aléatoire et ça soumis à la décision d'une seule compagnie, ce qui est problématique.
Donc ils profitent un maximum de la dépendance de leurs clients à leur produit en fait.
C'est un marché captif qui montre que, il y a une étude récente qui montrait à ma connaissance, j'ai plus en tête le chiffre exact, mais que le logiciel avait été remboursé, enfin amorti, à hauteur de 300 fois.
Waouh!
Et voilà.
C'est mieux que les 80% de Microsoft et autres saloperies.
C'est un marché captif, tout simplement. C'est un marché complètement captif.
On va écouter un petit morceau de musique histoire de se redonner un petit peu de cœur à l'ouvrage. Thank you.
De retour à Radio Romeleleu, donc c'est le créneau April avec Luc et Manu. Et là, on est en train de discuter accessibilité avec un expert du domaine, responsable du groupe Accessibilité April. Alors, on me force, on insiste, il faut que je parle de l'attaque de GNU qui se passe sur le stand de l'April. Ça crée des problèmes. Attends, tu te rends pas compte, c'est terrible. Il faut aller participer à cette œuvre d'art collective sous licence art libre et chacun doit aller mettre son morceau de papier sur ce magnifique GNU presque taille réelle et qui va défiler partout. Donc je sais pas où on l'exposera à la fin, mais en tout cas, il commence à avoir une sacrée gueule.
Au siège de l'April.
Pas la place.
Un petit peu.
En tout cas, il est sympa. Donc, on va revenir au sujet. Donc, allez sur le stand de l'April. Et de toute manière, c'est un magnifique endroit où il faut passer.
Oui, forcément.
Je l'ai vu, ça me plaît beaucoup.
Voilà.
On était sur la question du logiciel privateur où Jean-Philippe, tu nous expliquais que c'est un marché captif et donc avec des abus assez impressionnants. Donc, on comprend tout l'intérêt du libre face à ça. Et que ce soit pour des questions de prix, mais aussi sur des questions d'avoir la main sur le logiciel et de ne pas rester bloqué dans ce qui va être économiquement rentable pour un éditeur de logiciels propriétaires ou ce genre de choses. Une rencontre comme les rencontres mondiales du logiciel libre, pour toi, ça a quel intérêt ?
Pour moi, ça permet de plusieurs choses, en fait. D'abord, ça permet de rencontrer de serait-ce que pour le groupe de travail, par exemple, de retrouver des gens qui participent régulièrement ou qui le suivent de plus ou moins loin. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet de voir les gens de manière physique et c'est quand même, ça change ensuite notre rapport et notre travail par mail après. Ensuite, il y a aussi le fait que ça permet de rencontrer des développeurs d'applications et de leur expliquer de quoi il s'agit, de leur expliquer que, parce que, je prends l'exemple d'un afficheur braille, c'est pas évident pour un développeur dans un premier temps qui n'a jamais été confronté à la chose de comprendre comment l'information est affichée, de comprendre comment un aveugle, enfin que voit exactement un aveugle sur son afficheur braille à un instant donné. Donc c'est toujours intéressant de les croiser pour leur en parler. Et puis donc déjà le fait de croiser ces gens, ça peut faire émerger des projets. Et ensuite on croise des développeurs d'applications d'accessibilité et ça aussi c'est très motivant, d'abord parce que pour moi par exemple ça permet d'avoir des informations, de récolter des informations, de les recenser, et c'est très intéressant pour moi parce que du coup ça me permet de savoir d'être au courant de manière plus directe et plus approfondie de l'actualité de ce qui se fait dans les sphères libres, de l'actualité des lecteurs d'écran, etc. Typiquement c'est de là que sont nés, c'est-à-dire de ce genre de rencontres, que sont nés en 2004 les projets qui aujourd'hui rendent accessible l'interface graphique. C'est de là qu'est à peu près né, bon pas exactement de là, hein, c'est plus compliqué, mais c'est à peu près là quand même que les choses se formalisent, que est né un projet d'accessibilité du chargeur de démarrage, du bootloader, c'est-à-dire la toute première chose que vous voyez sur votre ordinateur avant que Linux ne démarre, avant que GNU Linux ne démarre ou Windows ne démarre, vous avez un espèce d'écran bleu si vous utilisez GNU Linux quelque part, et en fait ça s'appelle Grub. Et ben on est en train de réfléchir là, il y a depuis quelques années, à rendre cet outil, d'utiliser toutes ses potentialités techniques aujourd'hui pour le rendre accessible aux déficients visuels et aux aveugles. Donc en fait ça permet de, c'est ce genre de rencontre qui se fait, on rencontre le développeur de cette application, un développeur spécialiste de l'accessibilité qui est très très bon en la matière, et ça nous permet de nous croiser, de nous parler tout simplement, et c'est très très appréciable parce qu'après nos échanges par mail sont de meilleure qualité.
D'accord. Alors sur les questions d'accessibilité, ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu les grandes problématiques. Je crois savoir qu'il y a une loi qui encadre ça et qui impose légalement des adaptations pour la prise en compte de l'accessibilité.
Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle te plaît cette loi ? Est-ce qu'elle va jusqu'au bout ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, moi je pense qu'elle a un intérêt qui est dans son texte en tout cas réel, notamment parce qu'elle fixe des délais. Elle oblige par exemple l'ensemble des lieux publics à être accessibles d'ici 2015. Maintenant, en pratique, c'est vrai qu'elle pose des difficultés. Elle a aussi réformé considérablement le système des subventions et des aides pour, je cite, le rationaliser. C'est vrai que ça l'a rationalisé. Rationaliser n'a pas forcément voulu dire simplification et n'a pas forcément voulu dire même prestation qu'avant. C'est-à-dire que les allocations d'adultes handicapés, enfin pas celle-là, ça c'est un mauvais exemple, parce que, mais la prestation compensatoire du handicap, elle a tendance à baisser. Le financement du matériel, puisque c'est notre objet, mais c'est lié, hein, puisque c'est notre objet, le financement du matériel, lui, a lui aussi baissé. C'est-à-dire que son périmètre aujourd'hui n'est plus le même. À l'époque, on pouvait. Alors c'était pas facile, il fallait évidemment entreprendre beaucoup de démarches, c'était très compliqué, mais à l'époque on pouvait se faire financer potentiellement un ordinateur de bureau ou portable et les logiciels d'accessibilité qui l'accompagnaient, voire l'afficheur Braille. Aujourd'hui, quand vous faites une demande, on vous répond, bah oui, mais non, aujourd'hui, l'ordinateur, c'est n'importe qui peut s'en servir, donc vous achetez un ordinateur, vous vous débrouillez, on vous aide pas, et nous, on vous finance que les logiciels strictement nécessaires à votre accessibilité. Alors, ça se défend, mais ça fait de nouveau peser, ça accroît un petit peu la pression financière, ça accroît un petit peu les délais, et puis bon, ça, les procédures administratives sont devenues de plus en plus complexes, quoi, c'est clairement aujourd'hui. Après, la loi, elle fixe aussi des objectifs plus limités et moins impératifs en termes d'accessibilité des espaces numériques et des espaces logiciels. En tout cas, elle a eu un mérite, et je pense quand même que ça, il faut le reconnaître, c'est qu'elle a créé au sein de notre société, et notamment au sein du monde informatique, un débat sur l'accessibilité qui est aujourd'hui un petit peu à la mode. Et tant mieux, parce que je pense qu'avec le vieillissement de nos sociétés, on en aura besoin.
Oui. Oui, parce que ça, c'est une chose qu'on oublie assez rapidement, c'est que sur ces questions d'accessibilité, bah, ça touche potentiellement tout le monde à un moment dans sa vie, et notamment par la vieillesse.
Les accidents aussi, hein, j'ai déjà eu des bras dans le plâtre et des choses comme ça, et j'assure que ça devient un problème très rapidement. On ne peut pas tout faire de la même manière, et on se retrouve dans des situations où cette notion d'accessibilité prend tout son poids.
Et puis c'est encore plus vrai si vous parlez de l'handicap du handicap cognitif, parce que le handicap cognitif, c'est extrêmement large. C'est-à-dire que ça peut être la personne qui a un déficit cognitif véritable, hein, une trisomique, ou, enfin voilà, un vrai déficit mental, comme on dit, même si c'est pas très beau, mais voilà. Mais ça peut aussi concerner quelqu'un qui a des difficultés beaucoup plus basiques, hein, quelqu'un qui est... qui est pas familier par exemple de l'informatique. Il y a eu des statistiques récemment qui étaient assez impressionnantes et qui montraient qu'il y avait énormément de personnes qui se disaient, quand je dis énormément, ça se compte par 10 millions à 20 millions de personnes qui se disaient, alors les 10 millions se disaient totalement désemparés face à un système informatique ou un site internet, et 20 millions se disaient éprouver quelques petites difficultés face au système et aux interfaces, parce que elles sont parfois trop compliquées, parce que elles sont, et tout ça fait partie de l'accessibilité.
Moi, je sais que techniquement, cette simplification, ça me fait plaisir. J'aime bien simplifier les choses. Et là, savoir que ça a une utilité, que ça permet de rentrer dans les mœurs de plus de personnes, je trouve ça génial. C'est l'avantage qui va avec.
Bah effectivement, c'est un gage d'universalité, et c'est un gage, enfin je pense que c'est aussi l'idée qui rejoint de grande profondeur le logiciel libre, c'est-à-dire que cette idée, que l'idée de partage, l'idée que tout le monde peut accéder, l'idée de la liberté, parce qu'aujourd'hui l'informatique est devenue un enjeu. Je veux dire, quand on parle, moi j'aime bien jouer avec ce jeu de mots d'ailleurs dans mes projets, quand je dis je fais de l'info, oui, c'est-à-dire que je fais de l'info, donc je fais de l'informatique, mais je fais aussi de l'information. Et aujourd'hui, c'est vital, l'informatique. Quoi. Je veux dire, il y a une époque où on pouvait se dire, bon ben voilà, l'informatique, c'est ce que c'est, mais enfin, à la limite, c'est pas indispensable. Aujourd'hui, quand on voit aux handicapés l'autonomie que ça peut apporter, je veux dire, on peut pas s'en passer. L'informatique, c'est ça. Ça dédramatise le handicap. C'était le thème de ma conférence à Strasbourg, à Bordeaux l'année dernière. Ça dédramatise le handicap. Ça fait plein de choses. Donc c'est indispensable aujourd'hui.
Tu recommandes un outil qu'on utiliserait? Bon, je fais des sites web, je fais des choses comme ça. J'ai tendance à tester avec un outil genre W3M. Toi, tu recommandes des choses qui peuvent montrer aux gens comment faire de l'accessibilité mieux et avoir un impact, hein.
Alors, il y a deux aspects. D'abord, vous avez effectivement les navigateurs texte. Moi, je pense que le meilleur test et le plus tortionnaire pour le site, c'est le navigateur texte, parce qu'il n'y a rien de plus impitoyable que le navigateur texte, qui est incapable de tout dynamisme et qui est incapable de gérer des choses trop compliquées, du style du JavaScript très compliqué ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier test. Et puis après, quand on parle de développement web, il y a ce qu'on appelle une norme qui s'appelle la W3C, et il y a des outils dont c'était développé par un consortium, et il y a des outils qui ont été mis en place et qui sont en ligne, dans lesquels vous tapez ça sur le moteur de recherche, vous ouvrez le site internet en question, l'outil donc en ligne, le site internet en question.
Un validateur, hein, c'est ça?
Par exemple, voilà, validateur, vous tapez l'adresse du site et il vous dit qu'est-ce qui correspond à la norme, qu'est-ce qui n'y correspond pas, et c'est un très bon repère.
Alors, il y a comme des normes spécifiques peut-être pour l'accessibilité sur, on parle des sites web, mais sur les applications. Quand un développeur qui voudrait travailler cet aspect-là, qu'est-ce qu'il a comme ressources ?
Il a la norme W3C, qui, est devenu, qui devient un standard, qui devient une norme. Il y a, alors là, je ne suis pas spécialiste parce que je suis plus utilisateur très expérimenté plutôt que technicien avancé, mais je sais qu'il y a environ au moins 80 normes à prendre en compte. 80 règles en tout cas de base à prendre en compte. Après, il y a des utilisateurs, des développeurs qui vous diront que, à la limite, les normes c'est bien, mais qu'ils savent faire sans et qu'il suffit de respecter des règles de bon sens. Typiquement, pour une application, quand on essaye de placer des objets sur un écran, sur une interface graphique, idéalement, à la limite, on s'en fout des normes, quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'on comprenne juste que le bon sens veut que on mette une étiquette sur les objets, qu'on range les choses de façon ordonnée pour que, ne serait-ce que ce soit propre. Et si c'est propre, ça facilitera la tâche des outils d'accessibilité.
Et il y a un truc dont j'ai entendu parler qui est la norme AccessiWeb, avec les niveaux bronze, argent, or, tout ça.
Oui, je connais le nom, j'en sais pas beaucoup plus. Je crois que c'est une déclinaison de la W3C parce que cette norme elle est très complexe, donc elle a été.
C'est un label même.
Oui, voilà, c'est ça, bien. C'est ça. Ça a été labellisé, et puis il y a après des sous-normes aussi qui ont été faits. Vous parliez de l'administration tout à l'heure, notamment il y a un répertoire d'accessibilité des sites publics administratifs aussi qui a été fait. Il y a des choses qui se déclinent en fait, c'est-à-dire qu'on a la grande norme qui décline les principes généraux, et puis chaque pays et chaque contexte a ensuite développé ses normes en fonction de son contexte. Et AccessiWeb, oui, c'est une norme effectivement, je crois, de respect de ce standard W3C.
Donc aujourd'hui, on a parlé de web, en dehors du web pour tout ce qui va être application conventionnelle, application qu'on installe, etc. Quelle est la marche à suivre ?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut. Déjà aujourd'hui, évidemment, un des enjeux, on y reviendra probablement tout à l'heure, un des vrais enjeux qui se pose, c'est d'être capable de comprendre le concept de bus d'accessibilité. Techniquement, on va parler un peu technique, c'est-à-dire en fait le petit bout de code qui en fait va établir le relais entre le lecteur d'écran et l'application et le message qu'elle envoie en fait juste avant que ça ne devienne une image en tant que telle. Donc cette partie-là, évidemment, c'est un vrai enjeu. Il faut que le lecteur d'écran puisse s'y retrouver. Et pour cela, il faut que l'information soit qui renvoie soit suffisamment explicite. Donc, déjà, il faut penser à ça. Donc, coder sur une bibliothèque qui, de préférence, est supportée. Par exemple, GTK est bien supporté par le lecteur d'écran sous GNU Linux. Qt, pour l'instant, ne l'est pas bien. Mais on nous promet des avancées dans quelques années. Donc, j'espère que ça va se faire. Autre chose importante, et ça vaut autant pour le web que pour l'applicatif, le fait de faire des alternatives. C'est-à-dire que ce qui est très important quand on développe une fonction, quand on développe quelque chose, c'est de laisser la possibilité à l'utilisateur d'y accéder par plusieurs moyens. C'est-à-dire que par exemple, c'est bien de pouvoir y accéder à la souris, mais c'est encore mieux si on peut y accéder à la fois à la souris et au raccourci clavier. Typiquement, ça fait partie, c'est la base d'une application. Si on peut faire les deux, c'est parfait. Si on peut pas faire les deux, ce sera forcément pas accessible à un certain type de handicap, par exemple sous LibreOffice, qui pourtant me paraît être sous GNU Linux en tout cas relativement accessible. Il y a des poches encore d'inaccessibilité. Je prends par exemple les barres d'outils, certaines interfaces. Il y a des poches encore un peu compliquées pour accéder parce que c'est prévu pour être fait avec la souris. Or, il faudrait là précisément une interface guidable avec le clavier où on peut se déplacer avec le focus, concrètement. Donc ça, c'est le deuxième élément. Après, le troisième, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire quelque chose de propre, de rigoureux, avec des widgets étiquetés, avec des éléments au maximum descriptifs, ce qui permettra à l'application, le plus naturellement possible pour l'accessibilité, de s'y retrouver et à partir de là, de faire son travail d'interprétation, de description et le renvoyer sur une synthèse vocale.
Alors Manu, pour toi, faire propre, c'est la norme, hein, tu travailles toujours extrêmement bien.
J'essaye, je suis peut-être un peu pénible pour certains, mais ce que j'en remarque de tout ça, et ce que j'adore entendre là-dedans, c'est qu'il faut faire des applications orientées productivité. La productivité, pour moi, ça a toujours été fournir peut-être des icônes, ok, c'est bien pour les débutants, fournir des menus, c'est pas mal pour les gens qui commencent à connaître une application, mais je suis très orienté sur professionnaliser l'usage d'un logiciel et avoir des raccourcis clavier que l'utilisateur va pouvoir utiliser en permanence et avec lequel il va devenir très productif. Et s'assurer de ça, ça veut aussi dire faciliter l'accessibilité. C'est génial.
Bah c'est un peu le c'est très provocateur ce que je dis, mais pourtant ça me paraît un modèle véritablement à suivre en la matière. C'est un peu le choix qu'a fait Apple avec Mac. macOS a cette énorme force d'abord de donner une foultitude de raccourcis clavier et ensuite de donner une revue d'écran qui est extrêmement performante. Alors bon, c'est facile pour eux puisque c'est leur système, donc évidemment ils le connaissent bien, mais n'empêche que c'est vers cette direction qu'on doit aller, c'est-à-dire vers la direction d'un lecteur d'écran qui soit capable de gérer tout l'écran comme c'est déjà à peu près le cas, et puis cette possibilité d'alternative en permanence. Après, voilà. C'est...
Du coup, est-ce que ça ne milite pas pour des systèmes qui soient très intégrés et dans le libre? Alors on aurait un truc comme KDE où effectivement on va intégrer dans un système, enfin dans une interface, tous les logiciels avec quelque chose de vraiment très centralisé. Et est-ce qu'on n'a pas une difficulté avec le côté un peu bazar où il va y avoir des tas d'applications codées un peu par des personnes un peu partout dispersées et tout ça? Est-ce que ça ne va pas nourrir un peu ce débat-là?
Ben si, mais de toute façon moi j'ai, bon après c'est très personnel ce que je vais dire là, mais ça m'engage pas que moi, enfin je sais aussi que d'autres le pensent, et parmi eux j'ai entendu ce matin Richard Stallman le dire, donc je crois que c'est pas si mal. Le problème à mon avis du logiciel libre, un de ses vrais problèmes, c'est qu'il y a énormément de gens qui pour apprendre à coder, pour apprendre à faire un certain nombre de choses, créent de nouvelles applications. Et alors, c'est bien, mais c'est un petit peu dommage, parce que ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est qu'ils lisent du code et qu'ils contribuent à ce qui existe déjà. Parce qu'au plus on va créer de choses, au plus il va falloir à chaque fois réinventer les roues, et du coup, bah, c'est évidemment moins opérationnel, ça disperse les énergies. Et alors bon, c'est intéressant évidemment, mais c'est dommage de perdre de l'énergie alors que d'autres gros projets, comme justement les interfaces intégrées, auraient besoin de personnes. Après, les interfaces intégrées, elles ont un problème de légèreté, c'est-à-dire qu'elles sont souvent très lourdes. Et moi, ce que je pense, c'est que là, le libre doit prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je trouve un peu dommage sous GNOME, c'est que sous prétexte de vouloir être démocratique, on nous envoie, quand on installe GNOME, tout un tas d'applications. Il y a presque 500 mégaoctets d'applications. Je trouve ça dommage. Moi, je préfère installer, par exemple, sous une distribution GNU Linux ou sous Debian, je préfère installer un GNOME qui, c'est ce que je veux, quoi. C'est juste ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est utile. Moi, j'ai vu, par exemple, récemment un test sous une autre distribution dérivée de Debian. Quelqu'un qui testait, qui me disait, mais oh, il y en a partout, quoi. Ben oui, il y en a partout, parce qu'ils installent tout. Donc, forcément, il y en a partout. Oui, ben oui. C'est la limite de l'intégrer, donc c'est un équilibre à trouver, en tout cas, c'est un équilibre à trouver.
Une question qui me vient à l'esprit, je suis un grand fan de mon téléphone portable que j'adore, que j'utilise tout le temps, et c'est du logiciel libre, c'est Android. Est-ce que toi, tu arrives à utiliser ce petit outil, ce petit gadget, mais qui devient plus qu'un gadget, c'est un ordinateur dans la poche. Est-ce que tu as testé Android? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu arrives à en faire quelque chose?
Je connais mal le débat, il y a eu un sujet sur le groupe de l'April là, qui est passé il n'y a pas très longtemps, là, sur le groupe d'accessibilité. Je n'ai pas suivi de très près. Je crois quand même comprendre qu'il y a des initiatives, il y a des choses qui se développent, mais on n'est quand même pas encore du tout au point, quoi. Alors il y a le privateur fait toujours son travail à peu près correctement. Il y avait de vieilles applications qui aujourd'hui sont censées fonctionner sous Android et qui sont... Bon, elles ne sont pas terribles. Par contre, l'iPhone, là, pour le coup, bah, encore une fois, c'est Apple et ça fonctionne très très bien, faut le dire.
Ah merde.
Eh ben oui. Oui, non, mais c'est voilà, c'est aujourd'hui Apple devient en termes d'accessibilité un véritable acteur. Hein. C'est très important et c'est vrai que je pense que le libre, c'est peut-être aujourd'hui le principal concurrent du libre à mon avis, plus que ne l'est le traditionnel monde PC, je pense, enfin, Microsoft et toute la série qui gravite autour. Mais donc du coup, le téléphone, donc iPhone est accessible, Android. Les avis sont partagés. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui émergent. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à obtenir quelque chose de parfaitement satisfaisant. Mais je soumets ça quand même à une recherche sur Internet. Il faudra regarder sur le sujet qui a été évoqué sur la question et qui est très vaste, ce sujet.
On va reprendre notre souffle avec un petit peu de musique. Et après, on va parler un peu des différents outils qui existent et rentrent un peu dans la technique.
Mathusalem est un vieux chat savant qui dit bien haut ce qu'il pense des passants. J'aime pas qu'on fasse la morale, tu vois si je prends ça mal quand ça vient d'un animal. Et si je rentre un peu tard du dehors, il insinue et encore ivre mort. J'ose plus traverser la cour, après la tombée du jour, il me fait faire des détours. Parce que lui c'est un félin fêlé, bien malin qui pourra la voler. Dites-moi comment le faire filer, ce mouchard, mouchard. Il est là trônant sur sa poubelle, insolent comme un sphinx éternel. Quand je passe, il m'insulte et m'appelle le clochard, clochard. Et le voilà qui se met à crier, assez haut pour réveiller le quartier. Rangez vos bouteilles à clé, si vous les laissez traîner, le clochard va les vider. N'écoutez pas ce qu'il vous dit de moi, il ne m'aime pas et ment autant que moi. Je ne suis pas un clochard, un suiveur de corbillard, un naufragé du brouillard. Parce que lui c'est un félin fêlé, bien malin qui pourra l'affoler. Dites-moi comment le faire filer, ce mouchard, mouchard. Il est là trônant sur sa poubelle, insolent comme un sphinx éternel. Quand je passe, il m'insulte et m'appelle le clochard, clochard. Que s'il continue à colporter ses ragots dans les rues, un beau matin son squelette finira dans mon assiette. Je n'en laisserai pas de miettes. Après tout il est très maigre et si vieux, que de le voir mort me rendrait heureux. J'ai beau lui jeter des pierres, lui faire mordre la poussière, pas moyen de le faire taire. Parce que lui c'est un félin fêlé, bien malin qui pourra l'affoler. Dites-moi comment le faire filer, ce mouchard, mouchard. Il est là trônant sur sa poubelle, insolent comme un sphinx éternel. Quand je passe il m'insulte et m'appelle le clochard, clochard.
Radio RMLL, on est de retour et on parle d'accessibilité. Donc Jean-Philippe, tu nous as raconté un peu tous les enjeux, on a commencé à parler technique. On va creuser un petit peu le sujet de la technique et là Manu va le mettre à contribution, hein. C'est lui l'expert.
Ouh là 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 là.
Alors tu nous as parlé d'Auxerre, de synthèse vocale, d'accessibilité des interfaces graphiques. Donc tout ça c'est des parties vraiment spécifiques. À l'accessibilité, donc il y a tout ce qu'on peut faire pour que son application standard soit accessible, mais après ça, il y a des applications spécifiques à l'accessibilité.
Bah après voilà, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit aux applications merci de faire ci, ça, bon, voilà, on peut pas, comme je disais, leur en demander plus parce qu'il y a trop de situations diverses, hétéroclites, etc. Donc il faut qu'on développe des outils qui sont des outils d'aide, ce que l'anglais appelle des assistive technologies, c'est-à-dire des technologies qui permettent des technologies d'assistance en fait. Et ces outils-là, eux, existent et doivent être performants dans tous les handicaps. Alors, par exemple, vous avez pour les handicapés en moteur, par exemple, moteur, vous avez des outils comme Dasher, par exemple, vous avez des outils comme les claviers virtuels, je crois qu'il y a eu ça a été présenté au RMLL d'ailleurs, il y a des outils comme ça. Pour le handicap visuel, moi, je trouve que les solutions sont très abouties, c'est-à-dire qu'elles sont très matures et que malgré les nombreux défis qui les attendent, beaucoup de choses existent, beaucoup de choses se font et dans un ensemble assez hétéroclite de situations. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser Linux, GNU Linux en console, en graphique, avec une loupe, avec ou sans loupe, avec une synthèse vocale ou en braille. Donc il y a vraiment plein de situations. Après, tout n'est pas parfait parce que ça dépend de ça dépend des développeurs, ça dépend de ce qui a plus ou moins mobilisé l'attention des développeurs, ce qui les a plus ou moins intéressés, ce qu'ils ont jugé plus ou moins prioritaire. Donc par exemple, la synthèse vocale dans l'ensemble, la partie qui redirige vers la synthèse vocale, parce qu'après la synthèse vocale c'est un autre problème, mais ce qui redirige en tout cas dans le lecteur d'écran, le lien de, que fait le lecteur d'écran, sa fonction synthèse vocale, ça marche assez bien. La fonction braille, ça marche bien, on peut l'améliorer, mais ça marche bien. La fonction agrandissement, il y a un travail plus important à faire. Ça dépend des... Après, il y a d'autres défis, d'autres sujets de difficulté qui sont inhérents à la difficulté même des technologies. Par exemple, la synthèse vocale, le libre a énormément à faire. En même temps, c'est vrai que c'est des technologies extrêmement complexes. Donc, ça, c'est...
Et, pour les synthèses vocales, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? J'imagine qu'il faut avoir enregistré des éléments ou quoi? Comment ça fonctionne?
Moi, là, c'est trop technique pour moi, mais de ce que j'en sais, de ce que j'en ai entendu ce week-end, vous voyez pourquoi ça sert à RMLM, hein, parce que j'ai croisé quelqu'un qui a pu m'expliquer, qui est un peu dans ces univers-là et qui a pu m'expliquer. Il y a deux phases, pour faire très simple, en tout cas dans les synthèses vocales. Vous avez la phase où le mot est traduit en phonème, en fait, donc en son, et après vous avez la phase où le son est restitué vers l'utilisateur, sous la forme donc d'un truc audio, quoi, concrètement. Et ça se fait via tout un ensemble. Il y a des implications en termes de prosodie, c'est-à-dire en termes de ton, parce que pour avoir la ponctuation, pour avoir le sens des nuances. Puis après, ça se joue au niveau de la synthèse vocale, c'est-à-dire que c'est de la fabrication d'un son, on refabrique un son. Et ça, c'est extrêmement complexe. Et la synthèse vocale qui existe et qui est seule à exister, qui s'appelle eSpeak, elle est pas clairement, c'est pas utilisable. Enfin,
c'est du libre, eSpeak, hein.
Ah, totalement.
apt-get install et hop.
Oui, vous avez eSpeak. Et ça marche très bien, ça marche très très bien. Mais c'est pas auditivement, c'est vrai que c'est un peu lourd. Après, vous avez d'autres synthèses qui aujourd'hui sont semi-libres. Notamment, Google a développé une synthèse qui s'appelle SVox ou Pico, on le connaît aussi sous le nom de Pico. C'est une synthèse dont la base des phonèmes est libre, mais le moteur qui génère les voix, qui crée les voix, qui fabrique les voix, ne l'est pas. Donc là, on est en dialogue avec eux pour essayer de voir un peu ce qui peut se faire. Cette synthèse me semble plus prometteuse mais plus avancée en tout cas qu'eSpeak. Je pense qu'eSpeak, c'est un des promesses, mais il va falloir faire encore beaucoup de travail pour que ce soit réellement, que ça atteigne la qualité de ce qu'on trouve sous le propriétaire.
Mais il me semblait que tu avais vu des gens de Stuka. Luc,
en tout cas, c'est différent. Ils enregistrent des mots complets, des bibliothèques de mots dans différentes langues. Donc, c'est pas avec ça que tu vas faire de la synthèse vocale.
Ça suffit pas. Ça peut être une partie de résolution du problème, mais ça suffit pas parce qu'après, il faut que l'information soit traitée. Et quoi qu'il en soit, il y a cette partie de conversion du mot en phonème. Donc après, il y aura toujours le problème technique. Typiquement, des synthèses semi-libres, enfin pas très, non, elles sont pas libres d'ailleurs, comme Embrolla ou Festival posent ce genre de problème. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de faire un truc à peu près comme ça. Mais en anglais, ça marche assez bien et le patch français n'est pas non plus extraordinaire, quoi.
Sur la question de l'OCR, pour le coup, là, on dépasse totalement la question du handicap. Hein. Un OCR, c'est vachement utile pour tout un tas de gens. Et on parle de scanner tous les ouvrages qu'on a. Et on a des choses qui fonctionnent bien en libre.
Ouais, alors c'est pareil. C'est pas, quand on compare au proprio et à ce qui se fait, c'est vrai que là encore, on est en dessous. Hein. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut. Il faut vraiment qu'on investisse là-dessus. C'est-à-dire que je prends Tesseract, par exemple. Il marche très bien, mais... il n'est pas capable, par exemple, d'inverser. Enfin, quand on pose une page, en fait, il n'est pas capable de comprendre lui-même le sens de la page. En fait, c'est-à-dire qu'il faut lui poser la page dans le bon sens. Si on a le malheur de la poser dans l'autre sens, quoi, dans le sens inverse de celui dans lequel on lit, il va pas comprendre, quoi. Le CDR va se perdre. Alors que dans le propriétaire, c'est quelque chose qui se fait très bien, quoi. Si on pose la page dans n'importe quel sens, que ce soit droit ou sur le côté, et il retrouve le texte et il réussit à le réinterpréter. Donc ça fait partie de ces choses qui doivent s'améliorer. Et puis après, même quand tant que c'est dans le bon sens, tout n'est pas, en tout cas l'interprétation du papier, tout n'est pas très bien restitué, il faut l'améliorer. Mais je dois dire quand même que Tesseract, c'est le seul que j'ai testé de façon plus suivie, a énormément progressé. Moi j'ai commencé en 2005-2006 à tester, c'était carrément très mauvais, les textes étaient illisibles. Aujourd'hui, j'ai retesté il y a très peu de temps, il y a un mois à peu près, j'ai été assez bluffé, quoi. J'ai trouvé que ça marche vraiment, ça tourne.
Ça s'est bien amélioré.
Oui. Oui.
Donc, il y a l'optique, il y a l'audio, et pour les doigts, qu'est-ce qui existe ?
Alors, pour les doigts, on a du braille. Donc là, on a donc le... En fait, on est parti en graphique, en tout cas, de ce qui existait, en fait. C'est-à-dire que, depuis longtemps, il existe un logiciel en braille qui s'appelle BRL de TY, qui consiste en anglais, c'est BRLWTY. Et ce truc-là, en fait, alors, pour parler très technique, là, c'est au geek qu'on va s'adresser, il continue en console, en fait, ou sur un terminal, et ça marche même sous Windows. Il lit en fait le contenu, enfin ce que le noyau sort en fait dans le périphérique de VCS en fait, ou VCSA. Il lit ce qui sort de là et il le retranscrit sur l'afficheur braille en se focalisant sur l'endroit où se trouve le curseur. Donc il retranscrit cette information en braille et on a une accessibilité tout à fait remarquable de la console, hein, qui est quasiment parfaite. Hein. Si l'application est à peu près bien faite en console, même les applications en cursive, donc en interface semi-graphique, bah c'est parfait. Maintenant, donc le graphique a dit bon ben on va utiliser ces fonctionnalités. Et pour ça, on va en fait créer, donc BRL de TY a créé une API qui s'appelle BRL API. C'est cette API à laquelle se connecte le lecteur d'écran pour envoyer l'information sur l'afficheur braille. Donc ça marche très bien. Après, quand on est sur cette API, l'API en elle-même est plus limitée. Donc il faudrait que le lecteur d'écran intègre davantage de fonctions pour remplacer le cœur de BRL de TY. Parce que BRL API, c'est qu'une extension, donc il n'a pas tout. C'est très minimaliste. Après, c'est le lecteur d'écran qui, lui, devrait réintégrer des fonctions de facilité de navigation qu'il n'a pas intégré pour X raisons, hein, parce que c'est un peu compliqué, il ne les a pas intégrés. Ce qui n'empêche pas, à mon avis, que le braille reste, pour ceux qui savent le lire de manière correcte, la solution peut-être la plus facile à utiliser, je crois, aujourd'hui sous GNU Linux.
Tu nous avais parlé des frameworks aussi, en disant que ça posait des soucis.
Ben, c'est-à-dire que les frameworks, après faut s'abstenir de toute généralisation, hein, c'est très compliqué, ça dépend du langage, ça dépend du framework, mais par principe, les frameworks essayent de générer quelque chose qui soit le résultat, c'est-à-dire que l'objectif c'est que ça marche, l'objectif c'est que ça soit affiché, l'objectif c'est que ce soit, voilà, donc ils essaient de générer quelque chose qui fonctionne sans forcément se préoccuper de la façon dont c'est fait, de la façon dont c'est codé, c'est-à-dire que le code peut être de à peu près, enfin, il peut être propre, mais il peut aussi ne pas l'être, quoi. Il peut être mal fait, quoi. Il peut être pas optimal, par exemple. Et du coup, donc évidemment, on ne va pas reprocher au développeur d'avoir pas fait un code optimal, c'est l'automatisation qu'il a faite. Mais le problème, c'est que plus ce code-là n'est pas propre, et bien moins la synthèse vocale et la revue d'écran, le lecteur d'écran, pourra s'y retrouver, en fait. C'est ça la vraie difficulté.
Oh, Manu, quoi à dire à ça ? Parce que toi, tu es un grand fan du framework et de Ruby, non ?
Ah mais oui, mais là c'est du framework web et pour le coup il a pas trop. Bah, c'est l'application que j'ai faite pour être accessible, c'était du Ruby on Rails et Ruby on Rails se préoccupe pas particulièrement de ça. Il est accessible ou il l'est pas en fonction de ce qu'on fait, mais lui-même a pas trop de problématiques. Il faut juste éviter le côté bling-bling. Hein. Ça, voilà, et on n'y coupe pas. Et pour taper, comment tu passes toujours du braille pour consulter quelque chose à un clavier physique usuel ou tu as un autre clavier à côté qui est peut-être spécial ?
Il y a plusieurs possibilités. Après, ça dépend de l'afficheur qu'on a, enfin du terminal braille qu'on a. Oui, il y a la possibilité de n'avoir qu'un afficheur braille qui donc se contente d'afficher les 40 caractères et puis d'avoir deux ou trois boutons pour avancer et reculer, pour faire bouger, pour faire évoluer le contenu de la plage. Dans ce cas-là, on tape au clavier normal.
Qui est à côté ?
Oui, qui est à côté, ou qui, ça dépend. Si c'est sur un portable, il peut être juste au-dessus de la plage braille, il peut être juste en dessous, ça dépend comment les choses sont agencées, ça dépend comment le portable est fait. Il y a des appareils qui intègrent mieux les portables que d'autres, des plages braille qui intègrent mieux les portables que d'autres. Et puis après, vous avez des appareils bloc-notes, ce qu'on appelle, qui contiennent en eux-mêmes d'ailleurs des fonctionnalités d'écriture, d'édition et des choses comme ça, voire même des fois de traitement de texte. De plus en plus aujourd'hui, ça se fait. Et là, par contre, il y a un vrai clavier braille avec les 8 points, enfin les 8 touches pour générer les 8 points, et c'est du braille. Après, là, on tape en vrai braille.
Et là, tu le retraduis en ASCII et en caractères normaux, c'est ça ?
La table retranscrit en ASCII, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on tape ça, techniquement, il y a une table braille qui définit que telle combinaison équivaut à tel case sum, etc. Et puis après, on reconstitue le process du clavier normal.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ces sujets? Où il peut aller?
Je pense que la prise est un bon point d'entrée, qui permet quand même de, le groupe de travail qu'on a constitué, la mailing, permet de mettre en contact des gens suffisamment divers et hétéroclites pour avoir des réponses.
Voilà, le groupe est accessible à, enfin, en tout cas, on peut s'inscrire au groupe sans être adhérent.
Ah, tout à fait, voilà. Mais je vais même vous dire que je ne suis pas adhérent en avril, et pourtant je suis animateur du groupe.
C'est moche.
Ben ouais, mais un étudiant, il n'a pas d'argent.
Ah, ben, mais il y a des cas, hein. C'est prévu dans les clauses de l'April.
Ah, mais je suis futur fonctionnaire, et donc là, je pourrais enfin adhérer énormément. Avec grand plaisir, mais voilà, donc pour l'instant, okay. Puis en plus, je voulais découvrir aussi ce qui se passait, donc du coup, avant de m'impliquer, enfin, de m'impliquer financièrement, j'ai voulu voir comment ça se passait déjà au plan de l'organisation même. Et donc il y a ce groupe de travail qui est, je pense que c'est un bon point d'entrée, parce qu'après, le problème de la communauté, c'est ça aussi, c'est que c'est très foisonnant. C'est très divers et c'est très inégal. Je pense qu'avec ce groupe-là, on peut déjà centraliser une bonne part des informations. Quoi. C'est à faire. Après, il y a d'autres listes. Hein. Il y a des listes comme Carrefour Linux, comme des choses comme ça. Qui sont des listes plus techniques quand on a des problèmes concrets. Voilà, ça marche. C'est déjà, on a une bonne source d'information à partir de ça. Après, il y a aussi des distributions. Je prends l'exemple de Debian, par exemple, mais Ubuntu aussi. Qui ont créé des équipes dédiées spécifiquement à l'accessibilité, qui regroupent les utilisateurs, des développeurs qui d'ailleurs eux-mêmes parfois sont handicapés, puisque les développeurs, même aveugles, sont capables de coder. Et du coup, là, ça fait une, au sein d'une distribution, on réfléchit à l'accessibilité au sein d'une distribution. Et après, c'est se mettre en place tous les mécanismes de communication entre la distribution et le projet en amont, au sein même de la distribution, etc. quoi, en fait. Donc c'est aussi un point d'entrée, les groupes de travail de chaque distribution, ça peut être aussi un point d'entrée. Moi je suis dans les deux cas, dans les deux points d'entrée. Je suis à la fois dans le groupe Debian et dans l'April.
Bien merveilleux. Eh bien Jean-Philippe, on te remercie beaucoup pour toutes ces explications.
Merci à vous de m'avoir laissé en parler aussi longtemps, c'est très agréable. Et
c'est je suis très content. Très intéressant.
Merci.
Voilà, et merci beaucoup à Fred qui était à la technique et qui est à 2 minutes derrière la console.
Vu les grandes températures, c'est normal. Hein. On attend l'orage avec impatience, mais c'est pas sûr qu'il se pointe finalement.
Bah, merci.
Merci à vous.
N'oubliez pas de passer
rencontre
à l'April.
Rencontre mondiale.
Logiciel libre. Bon.